Merci d'écouter RFI. 9h à Washington et à Port-au-Prince. Il est 13h en temps universel.
RFI Midi, Anne Contner.
Dernière partie, sur le continent américain, avec à la une les droits de douane que Donald Trump doit annoncer tout à l'heure. De nouvelles taxes dont on ne sait pas grand-chose pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est qu'elles inquiètent beaucoup, et notamment en Amérique latine. On en parlera avec notre invité dans quelques minutes. Nous reviendrons aussi sur cette élection locale et cette victoire démocrate dans l'état du Wisconsin, toujours aux États-Unis. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, comme chaque jour avec vous, Serge Massot, ce mercredi. Les algues sargasses sont de retour sur les côtes de Guadeloupe.
Oui, les prévisions annoncent dans les prochains jours un arrivage massif et généralisé de ces algues brunes à l'odeur pestilentielle.
On en parle avec vous tout à l'heure, mais tout de suite, c'est le journal. Le journal de Gilles Moreau, bonjour.
Bonjour à tous.
Israël resserre son emprise à Gaza.
Oui, l'armée israélienne a annoncé ce matin l'extension de son offensive dans la bande de Gaza afin, explique-t-elle, de s'emparer de larges zones qui seront intégrées dans la zone de sécurité d'Israël. À cette occasion, d'importants déplacements de populations sont à craindre. Cette annonce confirme les réelles intentions du Premier ministre Benjamin Netanyahou aux yeux du député européen Mouni Satouri. Sa crainte est qu'à terme, Israël s'accapare toute la bande de Gaza à l'image de ce que prévoyait le plan Trump. On écoute Mouni Satouri au micro de Romain Le Maresquier.
On est dans l'annexion de tout le territoire palestinien. C'est le véritable but en réalité de Netanyahou. Depuis le début, la communauté internationale a laissé faire pendant des mois et des mois. Et on avait beau à recevoir les chiffres des victimes civiles, des enfants, des femmes, de la destruction totale de l'espace de vie de ces 2 millions de populations. Et avec l'arrivée de Trump, toutes les limites ont été dépassées. Et donc on est dans une stratégie réellement de l'annexion totale de ce territoire et le but recherché est le départ de la population palestinienne. En fait, c'est une guerre de repeuplement. Ce qui pose problème à Netanyahou, c'est l'existence même des Palestiniens et l'Union européenne laisse faire. Moi, je n'ai pas de difficulté avec la position officielle de l'Union européenne, qui est la solution des États, la négociation politique pour la sortie du conflit et le soutien à l'autorité palestinienne. Mais en fait, ça reste des discours. Dans les faits, nous n'arrivons pas à peser sur les affaires du monde, pas plus au Moyen-Orient qu'ailleurs.
L'eurodéputé Mouni Satouri. En Turquie, l'opposant Ekrem İmamoğlu est incarcéré pour corruption depuis tout juste 2 semaines. L'opposition qui devait manifester ce soir à Istanbul a finalement décidé de reporter son rassemblement. Mais pour maintenir la pression sur le gouvernement, d'autres formes de contestation sont mises en œuvre. L'opposition a appelé à une journée sans achat ce mercredi, une journée de boycott des commerces afin de protester contre la détention d'étudiants.
La Birmanie, 5 jours après le tremblement de terre.
Un séisme qui, d'après un nouveau bilan, a tué au moins 2900 personnes. Ce matin, un jeune homme d'une vingtaine d'années a pu être resecouru vivant. 5 jours après, l'aide humanitaire n'a toujours pas atteint toutes les zones touchées. Human Rights Watch appelle la junte au pouvoir à permettre l'accès immédiat de l'aide partout. Elle dénonce dans le même temps les coupures d'électricité et d'Internet qui compliquent davantage la situation. Bryony Lao est la directrice adjointe de la division Asie à l'ONU.
En fait, pour tout le monde, les organisations humanitaires, pour les médias ou pour des organisations comme le nôtre, c'est très difficile de contacter les gens dans les zones touchées par le tremblement de terre. C'est à cause des coupures d'électricité ainsi que des problèmes, des blocages sur l'Internet et les télécommunications imposés par la junte depuis longtemps. Alors, c'est énormément difficile à comprendre c'est quoi la situation sur le terrain. Et surtout, les gens, ils ont vraiment peur de la junte parce que l'utilisation des VPN et des plateformes interdites comme Facebook, ça pose vraiment des risques d'un arrêt arbitraire, la torture, l'emprisonnement. Vraiment, il y a toutes sortes de risques que les gens qui veulent communiquer avec l'étranger fassent même après le tremblement de terre. Nous avons vu depuis vendredi qu'il y a encore des milliers qui ont besoin d'une aide médicale urgente qui n'arrive pas. C'est très, très triste et j'espère que les gouvernements à l'étranger, y compris la France, vont essayer de donner encore de l'aide pour sauver les gens.
Bryony Lao de Human Rights Watch avec Yelena Tomic. En France, vers un nouveau procès pour Marine Le Pen, la chef de file du Rassemblement National, lourdement condamnée dans une affaire de détournement de fonds publics. Un procès en appel organisé l'an prochain pourrait lui permettre, si elle redevient éligible, de se présenter à la présidentielle de 2027. Sans évoquer précisément ce cas, le président Macron a rappelé ce matin en Conseil des ministres l'indépendance de la justice, tout en estimant que tous les citoyens doivent pouvoir bénéficier des mêmes recours contre une décision de justice tant que celle-ci n'est pas définitive. À l'instar des marchés financiers, le monde économique retient son souffle avant l'annonce ce soir par Donald Trump des nouveaux droits de douane imposés aux partenaires commerciaux des États-Unis. La teneur tout comme l'ampleur de ces mesures reste mystérieuse. Le voile sera levé à 20h TU après la fermeture de la bourse de New York. Wall Street qui a déjà commencé à tanguer comme d'autres places financières à travers le monde. La guerre commerciale est là. Est-ce une bonne nouvelle pour le climat? C'est ce qu'a cherché à savoir Florent Guignard.
Premier effet attendu de la guerre commerciale, une baisse de la croissance économique et moins de croissance, c'est moins de CO2, le principal responsable de la crise climatique. Deuxième effet, de probable relocalisation d'industries, ce qui fait du transport en moins, alors que le transport des marchandises dans le monde par bateau et par camion, c'est plus de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Mais tout n'est pas si simple, comme l'explique l'économiste Christophe Gouel.
La Chine est globalement un pays qui est assez polluant par dollar de production. Donc une relocalisation dans ce sens-là peut avoir un effet positif. Mais ça ne garantit absolument pas qu'il y ait moins d'émissions. Si on relocalise des choses qui étaient produites en France, qui vont être produites aux États-Unis, globalement, l'intensité carbone elle est plus élevée aux États-Unis. Même si on épargne en émissions liées au transport international, ce sera plus coûteux en émissions.
Les effets de la guerre commerciale sur le climat restent incertains, mais pour Christophe Gouel, il ne faut pas s'attendre à un miracle.
Je ne m'attends pas à ce que cette guerre commerciale amène à une baisse durable des émissions. Ce n'est pas du tout son objectif. Les déréglementations environnementales, les autorisations de forage dans les zones protégées ou la sortie de l'accord de Paris, à long terme, plus que la guerre commerciale, c'est quand même plus ça qui va compter.
Donald Trump n'aime pas le climat et le climat n'a toujours aucune raison d'aimer Donald Trump.
C'était Florent Guignard. Alors qu'il se prépare à déclencher de nouveaux droits de douane, sur le plan intérieur, Donald Trump subit un revers électoral. C'est la candidate progressiste soutenue par les démocrates qui a remporté l'élection à la Cour suprême du Wisconsin.
On reste aux États-Unis où les responsables des questions de sécurité nationale sont montrés du doigt.
Oui, il y a quelques jours éclatait une affaire de divulgation involontaire à un journaliste de discussion sur des frappes militaires. C'est au tour maintenant d'un autre responsable d'être épinglé pour son utilisation d'un courriel personnel. Les précisions à Washington de Guillaume Naudin.
Le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz pensait sans doute commencer à sortir de la tempête. Il n'était peut-être encore que dans l'œil du cyclone. Le quotidien américain Washington Post révèle en effet que lui et plusieurs de ses collaborateurs ont utilisé un service très populaire de courrier électronique, Gmail de Google, pour communiquer sur des questions comme des nominations dans l'armée, des conversations sur des systèmes d'armes complexes ou encore l'agenda du conseiller. Les responsables interrogés par le journal sous couvert d'anonymat évoquent une gestion problématique de l'information. Ces révélations interviennent quelques jours après celles sur l'inclusion d'un journaliste dans un groupe sur une messagerie privée qui, si elle est sécurisée, ne fait pas partie des systèmes gouvernementaux cryptés. Publiquement, Mike Waltz a le soutien du président, mais cette première affaire a soulevé de nombreuses questions sur l'opportunité de son maintien en poste. L'utilisation d'un email privé pour parler d'affaires publiques a été l'un des plus grands reproches faits en son temps à Hillary Clinton. Et justement, le week-end dernier, l'ancienne secrétaire d'État se demandait dans une tribune sur le sujet jusqu'où irait la stupidité de l'équipe actuelle. Guillaume Nolin, Washington, RFI.
Ainsi se referme le journal, mais l'information continue avec vous, Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. Nous sommes sur le continent américain durant les 20 prochaines minutes. Et on va revenir d'abord sur ces droits de douane que Donald Trump doit annoncer tout à l'heure.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Le président américain a l'art de faire monter le suspense. Pour l'instant, on ne sait pas en quoi consisteront ces nouvelles taxes. Mais tout le monde tremble et l'inquiétude s'affiche en une de la presse que vous avez lue pour nous, Achim Lippold.
Oui, à commencer effectivement par la presse canadienne sous le titre « Guerre commerciale », le journal qui s'appelle justement « La presse ». Le journal québécois parle d'un grand éveil pour le Canada, une remise en cause d'une alliance historique pour Ottawa. Ces décisions marquent la fin du libre-échange nord-américain tel qu'il existait depuis les années 90. Le Canada doit donc plus que jamais diversifier ses partenaires économiques. Mais comment vivement réagir. The Globe and Mail estime que le gouvernement canadien doit éviter d'entrer dans une logique de représailles avec des contre-tarifs qui pourraient fragiliser l'économie nationale, menacer l'emploi et faire grimper les prix. D'après son entourage, le premier ministre Mark Carney prévoit d'épargner, donc ne pas taxer la plupart des produits alimentaires et des biens de première nécessité. Anne.
Achim Lippold, on vous retrouve tout à l'heure pour la suite de votre revue de presse, mais on va continuer à parler de cette question qui préoccupe aussi en Amérique latine. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Gaspar Estrada de la London School of Economics. Bonjour.
Bonjour.
Avec le Canada, c'est le Mexique, l'autre pays le plus concerné, mais les autorités là n'ont pas pris de mesures de rétorsion pour l'instant. Il y a même eu quelques signes de bonne volonté, hein, comme par exemple l'envoi de renforts à la frontière entre les deux pays pour limiter l'immigration. Comment est-ce que vous expliquez cette différence de positionnement entre les autorités canadiennes et mexicaines ?
Bon, je pense qu'il faut avoir à l'esprit que voilà, les relations bilatérales entre le Canada et les États-Unis, le Mexique, sont très différentes compte tenu de l'histoire des pays et notamment des enjeux en matière de politique intérieure pour Donald Trump. En ce qui concerne le Mexique, il s'agit non seulement d'une question commerciale, mais aussi une question de migration, une question de sécurité liée à la question des drogues et notamment du fentanyl. Et donc, de ce point de vue-là, le fait de toucher plus durement un pays tel que le Mexique a aussi une visée de politique intérieure pour Donald Trump, ce qui n'est pas le cas du Canada, dans lequel les contentieux existent, mais ils sont de nature différente.
Donc c'est plutôt ça qui compte davantage que l'excédent commercial pour le Mexique dans ses échanges avec les États-Unis, par exemple ?
Alors, à l'évidence, la question économique, elle est centrale pour le Mexique, compte tenu de la nature des échanges avec les États-Unis. Plus de 90% des échanges commerciaux du Mexique se font avec le voisin du Nord, donc il est clair que la question économique, elle est centrale, mais elle ne se réduit pas à cet élément pour pouvoir expliquer justement la nature du dialogue bilatéral.
Alors, dans le viseur du président américain, il y a par exemple les véhicules à moteur qui seraient importés aux États-Unis. Il y a déjà une exception pour ceux qui sont fabriqués conformément à un accord États-Unis-Canada-Mexique. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump cherche quand même, malgré les annonces, à préserver ses liens avec ces deux pays ?
Il est clair que la nature des échanges entre ces trois pays, et notamment avec le Mexique en matière automobile, pousse le président américain à faire ce genre d'exception, pas par bonne volonté ou par un signal d'apaisement, mais parce qu'il y a des intérêts économiques qui sont extrêmement puissants, extrêmement prégnants et qui touchent de plein fouet des actionnaires qui sont surtout américains. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a une très forte action de la part des capitaines d'industrie américains pour préserver justement ces accords de libre-échange et pour éviter l'imposition de ces tarifs.
Ce traité dont on parlait, États-Unis, Canada, Mexique, il doit être de nouveau négocié l'année prochaine. Est-ce que vous pensez qu'il va tenir et que ces acteurs que vous évoquiez à l'instant pourraient avoir une influence décisive ?
Sans aucun doute, ces acteurs auront une influence décisive et ils vont se battre jusqu'au bout pour préserver la nature de cet accord qui a été donc signé une première fois en 92, mis en œuvre en 94, renégocié sous la présidence de Donald Trump et qui aujourd'hui un moment extrêmement difficile. Mais je pense qu'il y a des intérêts économiques qui sont extrêmement forts et qui pousseront Donald Trump à négocier.
Alors, le président américain a décidé aussi le mois dernier de taxer à 25% tout l'acier et tout l'aluminium entrant aux États-Unis. Ça inquiète beaucoup un secteur qui est déjà assez mis à mal, il faut le dire, par les bas prix de la Chine. Par exemple, l'acier chinois est 40% moins cher que celui du Chili. Est-ce qu'il faut craindre des fermetures d'usines, des licenciements dans certains pays, selon vous ?
Il est clair que cela est une possibilité qui existe et qui d'ailleurs est vue avec beaucoup d'inquiétude dans plusieurs pays, en Amérique latine, je pense notamment au Brésil, qui exporte beaucoup d'acier aux États-Unis avec le Canada. Et donc, de ce point de vue-là, il est clair que les suites de ces annonces de l'administration américaine seront non seulement surveillées avec beaucoup d'attention par les pays latino-américains exportateurs d'acier, mais seront l'objet aussi d'intenses débats et de manœuvres de lobbying de la part des industriels pour préserver justement ce tissu économique.
C'est l'un des grands exportateurs, hein, le Brésil. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence concrète, ces décisions de Donald Trump ?
Réduire les exportations d'acier du Brésil vers les États-Unis, alors même que la balance commerciale entre le Brésil et les États-Unis est favorable à Washington. Il y a donc beaucoup d'incrédulité et d'incompréhension du côté brésilien par rapport à ces annonces, compte tenu de cette balance qui est favorable aux intérêts américains. Mais il y a une volonté de la part du Brasilia de ne pas couper le fil du dialogue avec Washington. La semaine dernière, il y avait une fois encore une mission économique brésilienne dans la capitale états-unienne visant justement à éviter que le pire n'arrive.
Et est-ce que certains de ces pays concernés au premier chef par les décisions de Donald Trump pourraient agir ensemble ou ils sont condamnés à agir de manière bilatérale ?
Je pense que c'est tout l'enjeu qui se pose par rapport aux pays européens, par exemple. Il est clair qu'aujourd'hui, l'Europe, en matière commerciale, elle a donné un mandat, en tout cas les pays de l'Union européenne ont donné un mandat à la Commission pour les représenter de manière collective en matière de négociations commerciales. C'est quelque chose qui donne à l'Union européenne un levier de négociation qui est extrêmement puissant. Malheureusement, ce type de mandat n'existe pas, par exemple, pour les pays latino-américains. Donc, on peut craindre qu'en matière commerciale, les pays latino-américains agissent en cavalier seul, ce qui, forcément, va les fragiliser dans leurs négociations avec les États-Unis.
Merci, Gaspar Estrada, de la London School of Economics. Merci d'avoir été en ligne avec nous.
RFI, The World's Voices.
C'est un bon coup de pouce psychologique pour les démocrates, selon la presse américaine. La juge Suzanne Crawford, qu'il soutenait, a obtenu hier un siège à la Cour suprême de l'État du Wisconsin dans le Midwest. Une victoire électorale locale, Juliette Chénion, mais au retentissement national.
Oui, ce scrutin était une occasion pour Donald Trump d'affirmer son emprise sur le système judiciaire et jamais une campagne pour un tel vote local n'avait coûté aussi cher. Plus de 80 millions de dollars ont été investis de part et d'autre, dont près de 20 millions donnés par Elon Musk et des groupes proches de lui au camp du candidat conservateur. Un candidat que Donald Trump a aussi soutenu publiquement sur son réseau social. En face, le camp démocrate, appuyé par Barack Obama et le donateur George Soros, a retourné la situation à son avantage. Ils ont fait campagne en faisant de ce scrutin un bilan des premiers mois du mandat du président Trump et un référendum sur la figure d'Elon Musk, une stratégie finalement payante.
Puisque la candidate des démocrates, la juge Suzanne Crawford, s'est imposée et largement avec près de 10 points d'avance sur le candidat des républicains Brad Schimmel.
Oui, ce résultat n'est pas une grande surprise. Le camp républicain n'a pas réussi à déjouer les pronostics. La Cour suprême du Wisconsin reste ainsi à majorité démocrate, au moins pour les trois prochaines années, avec un enjeu de taille, la carte électorale de ce swing state, un état pivot décisif lors des élections présidentielles. Trump s'y était imposé avec à peine 1% d'avance le 5 novembre dernier. Pour le moment, cette carte électorale du Wisconsin, elle est largement favorable aux républicains, mais elle pourrait être redessinée, faisant potentiellement basculer, d'après les projections des démocrates, 2 sièges dans leur camp.
Est-ce qu'il y a d'autres conséquences à cette victoire démocrate ?
Il y a 2 autres dossiers, oui, sur lesquels la Cour suprême du Wisconsin sera amenée à se prononcer. Il s'agit du droit à l'avortement et des droits des travailleurs. Avec une cour à majorité démocrate, les défenseurs de ces causes ont plus de chances d'être entendus. Cette victoire est aussi un nouveau souffle à l'échelle nationale pour des démocrates éteints, en difficulté depuis la victoire de Donald Trump. Quant à Elon Musk, cette défaite est amère pour ses intérêts personnels, puisque le patron de Tesla attend une décision judiciaire au sujet de poursuites engagées par son entreprise de voitures électriques contre les les autorités du Wisconsin, un État qui n'autorise pas la vente directe de véhicules par les constructeurs. Elon Musk espérait donc obtenir peut-être l'autorisation grâce à une Cour suprême à majorité conservatrice, mais son pari est perdu.
Juliette Chénion, il y avait deux autres élections remportées, elles, par les Républicains. Le parti de Donald Trump a obtenu 2 sièges à la Chambre des représentants, mais avec moins d'avance que prévu. On reste aux États-Unis pour la suite de votre revue de presse, Achim Lippold. Les journaux reviennent aussi sur un record au Sénat, le discours le plus long. Et c'est le démocrate Cory Booker qui l'a tenu.
Exactement, Cory Booker, l'élu démocrate qui a tenu donc un discours marathon de plus de 25 heures, une véritable épreuve physique, à ne pas de pause, même pas pour des besoins naturels. Il a très peu bu avant son discours. Pas le droit non plus de s'asseoir, comme l'exigent les règles strictes du Sénat. Donc pendant toute cette durée, donc plus de 25 heures, il a dénoncé ce qu'il qualifie de politique inconstitutionnelle de Donald Trump. En seulement 71 jours, le président des États-Unis a infligé tant de dégâts à la sécurité et à la stabilité financière des Américains, au fondement même de notre démocratie, a martelé Cory Booker.
Une diatribe saluée par le Washington Post qui parle d'un exemple historique à suivre pour les autres démocrates.
Oui, les sympathisants progressistes fulminent de voir leur parti faire comme si tout était normal, notamment après la décision des sénateurs démocrates le mois dernier, ne pas bloquer un projet de loi de financement du gouvernement, écrit le journal. Cory Booker, lui, a bien saisi ce message de la base, sa détermination à rester debout au Sénat pendant plus de 25 heures. On voit un signal fort, au moins un sénateur comprend que Donald Trump est en train de détruire les institutions et valeurs auxquelles beaucoup d'Américains sont attachés. The Washington Post souligne aussi que cet acte de résistance vient d'une figure de l'establishment comme Booker jusqu'à présent, écrit le journal. Seuls des élus très à gauche comme le sénateur Bernie Sanders et la députée Alexandria Ocasio-Cortez avaient élevé la voix contre Donald Trump.
On va prendre maintenant la direction d'Haïti où la ville de Mirbalais est en proie à une violente attaque menée par la coalition criminelle Vivre Ensemble. Ça dure depuis lundi dernier, Arim.
Oui, Mirbalais est en proie à une violente attaque du gang Vivre Ensemble. Effectivement, depuis lundi, c'est ce qu'écrit le Nouvelliste, c'est à la une même du journal. Les assaillants ont pris d'assaut plusieurs infrastructures stratégiques, notamment le commissariat et la prison civile, provoquant l'évasion de 529 détenus. Hier encore, la tension restait vive dans la ville. Les gangs ont renforcé leur emprise et occupent désormais le lycée de la ville, plongeant la population dans un climat de terreur, écrit le nouvelliste, on va y rêver. Les autorités locales dénoncent l'inaction du gouvernement. L'insécurité, Anne, c'est aussi le titre de Gazette Haïti qui met en avant la colère des habitants de plusieurs quartiers de Port-au-Prince, Canapé Vert, Debussy, Paco, Carrefour Feuille. Et Christ Roy se prépare à une nouvelle mobilisation ce mercredi. Leur objectif, exiger des mesures concrètes contre la violence des gangs. Selon Gazette Haïti, cette initiative est portée par les résidents, mais aussi par les déplacés, les premières victimes donc de ces exactions criminelles, face à ce qu'ils jugent d'être une inaction du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement. Eh bien, ils comptent bien faire entendre leur voix dans les rues de la capitale.
La revue de presse s'est signée Achim Lippold. Il est 9h23 à Port-au-Prince et à Washington.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Il était connu pour être charismatique, mais imprévisible, rappelle le New York Times. L'acteur Val Kilmer est décédé hier soir à 65 ans. Éloigné des écrans depuis quelque temps, il avait été l'une des stars du cinéma américain dans les années 80 et 90 en interprétant notamment Batman ou Jim Morrison. Retour sur son parcours avec notre correspondant à Los Angeles, Loïc Piala.
Sa carrière démarre en musique dans Top Secret, parodie de films d'espionnage. Val Kilmer y fait le pitre, pas vraiment ce qu'il a appris à Juilliard, prestigieuse école de théâtre à New York.
Could be my wingman anytime.
Beau gosse, charismatique, il se fait vite un nom dans les années 80, face à Tom Cruise dans Top Gun et dans The Doors. Sa personnalité excentrique colle à celle de Jim Morrison. Il brille surtout dans des seconds rôles comme Doc Holliday dans le western Tombstone, True Romance ou Hit. Il est aussi en tête d'affiche du Saint ou Batman Forever au milieu des années 90.
Until one terrible morning you wake up and realize that revenge has become your whole life.
mais sa réputation de diva n'aide pas sa carrière. Le tournage de L'île du docteur Moreau, aux côtés de Marlon Brando, autre acteur difficile, vire au cauchemar pour l'équipe du film.
My name is Val Kilmer. I'm an actor.
Grand fan de Mark Twain, Val Kilmer n'est jamais totalement entré dans le moule hollywoodien, il le reconnaît. Dans le documentaire Val, où son fils lui prête sa voix, l'acteur ne peut presque plus parler à cause d'un cancer à la gorge. Cela n'empêche pas Tom Cruise de le retrouver dans Maverick, la suite de Top Gun, pour une scène émouvante, sa dernière apparition à l'écran en 2022. Loïc Kella, Los Angeles, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Serge Massot. Un arrivage massif de sargasses est annoncé en Guadeloupe.
Oui, les sargasses, ces algues brunes à l'odeur pestilentielle et à l'effet corrosif sur le matériel électrique. Le dernier bulletin de prévision parle d'un arrivage massif et généralisé dans les prochains jours. Et tout indique une saison chargée en sargasses. Sébastien Gilles de Guadeloupe, la première.
Cette semaine, les arrivages d'algues brunes vont se généraliser par l'Est sur la base des observations satellites effectuées fin mars. Les sargasses apparaissent organisées en radeaux ou filaments, parfois de taille importante, supérieure à 10 km. Ces amas progressent vers nos côtes dans un flux d'est à nord-est et il faut donc s'attendre à des échouements sur les littoraux exposés, notamment les îles du Sud, hormis la Désirade, et la côte au vent de la Basse-Terre. Ces deux périmètres ont été placés en risque fort d'échouement. Pour ce qui concerne enfin le moyen terme, sur les deux prochaines semaines, les arrivages vont se poursuivre. L'Atlantique apparaît actuellement bien chargé et selon les spécialistes, les arrivées devraient aller crescendo en termes de fréquence et d'intensité dans les semaines et les mois à venir. En d'autres termes, le début d'une saison active.
Déjà 13 morts sur les routes de Guadeloupe depuis le début de l'année, dont deux cyclistes ces derniers jours. Il y a deux mois, pourtant, le préfet avait appelé à la mobilisation générale face à une situation catastrophique. Des drames qui rappellent de mauvais souvenirs à Hubert Hérin, dont le fils a été tué à vélo en 2016. Il l'a dit à Alexandre Houda de Guadeloupe la Première.
Depuis dimanche, là, je ressens des choses qui sont très, très, très difficiles. Quand je vois que les voitures, maintenant, on n'a plus d'une petite radio, on a des écrans. Tant qu'on ne va pas essayer de commencer à attaquer ce genre de choses dans les voitures, on ne va pas empêcher une voiture de taper un cycliste. Une voiture ne doit pas être un bureau. Le gars qui a tué mon fils, et c'était un commercial. C'est quelqu'un qui travaillait dans sa voiture. Quand tu vois combien il a tapé et mon fils, moi je dis c'est un gars, il n'était pas concentré sur sa conduite.
Et puis en Guyane, l'eau coule à nouveau au barrage hydroélectrique de Somaripa qui permet de fournir de l'électricité aux habitants de Saint-Georges de l'Oyapock. Le barrage était à l'arrêt depuis 3 ans suite à une avarie. André Ouarton, chef de projet chez EDF Guyane.
Dans l'ouvrage, on est venu construire en fait des murs pour pouvoir l'étancher puisqu'on a eu un souci d'érosion interne qui a fait justement que l'aménagement a été arrêté depuis 2022. Et donc on a fabriqué des murs de coupure hydraulique à l'intérieur de l'ouvrage et ensuite on est venu remblayer la latérite par-dessus. On travaille l'ouvrage au cœur en le rendant étanche, ce qui fait que les eaux qui vont s'infiltrer dans la terre auront plus de difficultés à contourner le mur et donc ils vont perdre de la force, ils ne vont pas détériorer la digue.
André Ouarton, chef de projet chez EDF Guyane. Il était au micro de Jean-Marc Dabreux de Guyane la Première. Fin de ce journal. Bonne journée sur RFI.
Merci Serge Massot. On va se quitter avec un peu de musique. Celle du groupe Tropic Hotel qui sera en concert ce soir à Rio, au Brésil. Voici leur morceau « Viens ».
voulais te le dire. Juste à vous et toi mourir. De t'avoir tant espéré. Je voulais te compter.
Et c'est avec le groupe Tropic Hotel que se termine RFI Midi. L'émission était réalisée aujourd'hui par Vincent Biteau. On se retrouve demain, 11h, temps universel. Et tout de suite, non pas du tout, de vive voix sur RFI, puisque nous sommes mercredi. Très bonne journée à tous.
Contre les voix, les discussions avec Dieu.